Chapitre 4. Le voyage. Pendant le reste de la nuit, Gaston écrivit son testament qu'il déposa le lendemain chez un notaire de Nantes. Il léguait tous ses biens à Hélène de Chaverny, la suppliait, s'il venait à mourir, de ne point renoncer au monde pour cela, mais de laisser aller sa jeune et belle existence au cours qui lui était réservé. Seulement, comme il était le dernier de sa famille, il la priait, en souvenir de lui, de donner le nom de Gaston à son premier fils. Puis il alla voir une dernière fois ses amis, et surtout Montlouis, celui de tous avec lequel il était le plus lié et qui, la veille, était celui des quatre qu'il avait le plus soutenu. Leur exprima toute la confiance qu'il avait dans le succès de l'entreprise, reçut de Pontcallec la moitié d'une pièce d'or et une lettre qu'il devait remettre à un certain capitaine Lajonquière, correspondant des conjurés à Paris, lequel devait mettre Gaston en relation avec des personnages importants qu'il allait chercher dans la capitale, prit dans sa valise tout ce qu'il avait pu recueillir d'argent comptant, et accompagné seulement d'un domestique nommé Ovan, qu'il avait à son service depuis 3 ans et auquel il croyait pouvoir se fier, il partit de Nantes, ses autres compagnons ayant jugé à propos de ne lui faire aucune compagnie de peur d'éveiller les soupçons. Il était midi, la route était belle, un magnifique soleil d'hiver s'était levé sur les champs éblouissants de neige, des gouttes d'eau glacée pendant aux branches reflétaient les rayons du jour comme des stalactites de diamants, et cependant la longue route était à peu près déserte. Rien devant ni derrière Gaston ne ressemblait à ce carrosse du couvent vert et noir et si bien connu de lui, dans lequel les bonnes Augustines de Clisson envoyaient chercher ou ramener les pensionnaires à leur famille. Gaston, suivi de son laquais, continuait son chemin, manifestant sur son visage cette gaieté mêlée d'angoisse qui étreint le cœur de l'homme à la vue des beautés de la nature qu'un événement fatal et inévitable peut bientôt lui faire perdre à jamais. Quant au laquais, dès le moment du départ, il parut beaucoup plus pressé que son maître. Il est vrai qu'il était de cette classe de gens qui désirent toujours arriver vite, vu que, n'ayant d'un voyage que les ennuis et les peines, ils veulent abréger les voyages le plus possible. Il adorait d'ailleurs Paris, en perspective. Il ne l'avait jamais vu, c'est vrai, mais on lui en avait fait des rapports merveilleux, disait-il, et s'il avait pu attacher des ailes aux pieds des deux chevaux, quoiqu'il fût assez mauvais cavalier, la distance eût été franchie en quelques heures. Gaston alla donc fort posément jusqu'à Oudon, mais si posément qu'il eût marché, le carrosse des Augustines de Clisson avait marché moins vite encore. Le chevalier fit halte à Oudon. Il y choisit l'auberge du Char Couronné, laquelle avait sur la rue 2 fenêtres en saillie qui commandaient tout le chemin. D'ailleurs, il s'était informé et avait appris que cette auberge, illustre entre toutes les auberges de la ville, était le rendez-vous habituel de presque tous les coches. Pendant qu'on préparait son dîner, il pouvait être 2 heures de l'après-midi à peu près, Gaston, malgré le froid, en sentinelle sur son balcon, ne perdut pas de vue un seul instant la route. Mais il ne vit, aussi loin que son regard pouvait s'étendre, que lourds fourgons et coches gorgés de monde. Quant à cette voiture verte et noire tant attendue, il n'en était pas le moins du monde question. Alors, dans son impatience, Gaston pensa qu'Hélène avait précédé et se trouvait peut-être déjà dans l'auberge. En conséquence, il passa brusquement des fenêtres du devant à une fenêtre de derrière, donnant sur la cour, et de laquelle il pouvait facilement faire l'inspection des voitures placées sous les remises. La voiture du couvent était absente. Mais il ne s'en arrêta pas moins quelque temps à son observatoire, car il vit son laquais parler activement à un homme vêtu de gris et qui s'enveloppait d'un manteau taillé sur la forme des manteaux militaires. Cet homme, après sa conversation avec Owen, enfourcha un bon cheval de poste et, malgré la neige et la glace, il partit en cavalier qui a ses raisons de marcher vite. Dût-il, en marchant vite, risquer de se rompre le cou. Seulement, il ne glissa ni ne tomba et, au bruit que fit le cheval en s'éloignant, Gaston devina qu'il se dirigeait vers Paris. En ce moment, le laquais leva les yeux et vit son maître qui le regardait. Il devint fort rouge et, comme un homme surpris en faute, essaya de prendre un maintien en brossant les parements de son habit et en secouant la neige qu'il avait aux pieds. Gaston lui fit signe de venir au-dessous de la fenêtre, et, quoique cet ordre lui fût évidemment désagréable, il obéit. « À qui parlais-tu donc là, Owen ?» demanda le cavalier. « À un homme, monsieur Gaston, » répondit celui-ci de cet air de niaiserie mêlé de malice particulier aux paysans. « Fort bien, mais quel est cet homme ?»« Un voyageur, un soldat qui me demandait sa route, monsieur le chevalier. »« Sa route? Pour aller où ?»« Pour aller à Rennes. »« Me fit Gaston. » Rien n'était plus naturel que tout cela. Cependant, Gaston rentra dans sa chambre tout pensif. Cet homme qu'il avait toujours servi fidèlement, c'est vrai, était le neveu du premier valet de chambre de monsieur de Montaran, ancien gouverneur de Bretagne, que les plaintes de la province avaient fait remplacer par monsieur de Montesquieu. C'était cet oncle qui avait fait à Owen le brillant tableau de Paris, qui lui avait fait naître au fond du cœur un si grand désir de voir la capitale, désir qui, selon toute probabilité, allait se réaliser. Mais bientôt, en y réfléchissant, les doutes que Gaston avait conçus sur Owen se dissipèrent, et Gaston se demanda si, en avançant dans une autre voie, où cependant il avait besoin de tout son courage, il ne devenait pas de plus en plus timide. Cependant, le nuage qui avait subitement couvert son front en voyant Owen causer avec l'homme en gris ne s'effaça point entièrement. D'ailleurs, il avait beau regarder, la voiture verte et noire n'arrivait pas. Il pensa un moment, les cœurs les plus purs ont parfois de ces idées honteuses, qu'Hélène avait choisi un détour pour se séparer de lui sans bruit et sans querelle. Mais bientôt, il réfléchit qu'en voyage, tout devient accident et par conséquent retard. Il se remit à table, quoique, depuis longtemps déjà, il eût achevé son repas. Et comme Owen, qui venait d'entrer pour desservir, le regardait étonné. « Du vin ?» demanda Gaston, sentant à son tour la nécessité de se donner un maintien, comme Owen l'avait senti lui-même un quart d'heure auparavant. Owen avait déjà eu soin d'enlever la bouteille à peine entamée et qui lui appartenait de droit. Aussi, regardant son maître, qui ordinairement était fort sobre d'un air stupéfait, « Du vin ?» répéta-t-il. « Eh oui, dit Gaston, impatient, du vin, je veux boire, et qu'y a-t-il d'étonnant à cela ?»« Rien, monsieur, » répondit Owen, et il alla jusqu'à la porte transmettre l'ordre de son maître à un garçon qui apporta une seconde bouteille. Gaston se versa un verre de vin, le but, et s'en versa un second. Owen ouvrait de grands yeux ébahis. Enfin, pensant qu'il était de son devoir et de son intérêt en même temps, puisque cette seconde bouteille lui appartenait comme la première, d'arrêter son maître sur la pente funeste où celui-ci paraissait s'aventurer, « Monsieur, lui dit-il, j'ai ouï raconter que boire par le froid saisit beaucoup un cavalier. Vous oubliez que nous avons encore une longue route à faire et que plus nous attendrons, plus il fera froid, sans compter que si nous tardions encore beaucoup, nous pourrions bien ne plus trouver de chevaux à la poste. » Gaston était plongé dans ses pensées et ne répondit pas le moindre mot à cette observation, si juste qu'elle fût. « Je ferai observer à monsieur, » continua Owen, « qu'il est 3 heures bientôt et que la nuit vient à 4 heures et demie. » Cette persistance de son laquais étonna Gaston. « Tu es bien pressé, Owen, » lui dit-il, « aurais-tu rendez-vous avec ce voyageur qui t'a demandé son chemin ?»« Monsieur sait bien que cela est impossible, » répondit Owen sans se déconcerter, « puisque ce voyageur allait à Rennes et que nous allons, nous, à Paris. » Cependant, sous le regard fixe de son maître, Owen ne put s'empêcher de rougir, et Gaston ouvrait la bouche pour lui faire une autre question lorsque le bruit d'une voiture venant de Nantes se fit entendre. Gaston courut à la fenêtre, c'était la voiture verte et noire. À cette vue, Gaston oublia tout, et laissant Owen se remettre tout à son aise, il s'élança hors de l'appartement. Alors ce fut au tour d'Owen d'aller voir à la fenêtre quel important objet avait pu causer cette diversion dans l'esprit de son maître. Il courut au balcon et vit la voiture verte et noire qui s'arrêtait. Un homme couvert d'une grosse cape descendit d'abord du siège et ouvrit la portière. Puis il fit descendre une jeune femme enveloppée d'une mante noire, puis une sœur Augustine. Les deux dames, en annonçant qu'elles partiraient après le repas, demandèrent une chambre particulière. Mais pour arriver à cette chambre particulière, il leur fallait traverser la salle publique où Gaston, indifférent en apparence, se tenait debout près du poêle. Un coup d'œil rapide mais significatif fut échangé entre Hélène et le chevalier, et à la grande satisfaction de Gaston, dans l'homme à la grosse cape qui était descendu du siège, il reconnut le jardinier du couvent, seul lui-même dont il tenait la clé de la grille. C'était, dans les circonstances où l'on se trouvait, un heureux et puissant auxiliaire. Cependant Gaston, avec un calme qui faisait honneur à sa puissance sur lui-même, laissa repasser le jardinier sans l'arrêter au passage. Mais comme celui-ci traversait la cour et entrait dans l'écurie, il le suivit car il avait hâte de s'interroger. Une seule crainte lui restait, c'est que le jardinier fût venu jusqu'à Oudon seulement et s'apprêta à retourner immédiatement au couvent. Mais au premier mot, Gaston fut rassuré. Le jardinier accompagnait les deux femmes jusqu'à Rambouillet, terme momentané du voyage d'Hélène. Puis il ramenait au couvent de Clisson sœur Thérèse, c'était le nom de l'Augustine, que la supérieure n'avait pas voulu laisser exposer seule au danger d'une si longue route. À la fin de cette conversation, qui avait eu lieu sur le seuil de la porte de l'écurie, Gaston leva les yeux et vit à son tour Owen qui le regardait. Cette curiosité de son laquais lui déplut. « Que faites-vous donc là ?» demanda le chevalier. « J'attends les ordres de monsieur, » dit Owen. Il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'un laquais désœuvré regardât par une fenêtre. Gaston se contenta donc de froncer le sourcil. « Connaissez-vous ce garçon ?» demanda Gaston au jardinier. « Monsieur Owen, votre domestique ?» répondit celui-ci, étonné de la question. « Sans doute, je le connais, puisque nous sommes du même pays. »« Tant pis, » murmura Gaston. « Oh, c'est un brave garçon que monsieur Owen, » reprit le jardinier. « N'importe, » dit Gaston, « pas un mot d'Hélène, je vous prie. » Le jardinier le lui promit. D'ailleurs, il était plus que personne intéressé à garder le secret sur ses relations avec le chevalier. Gaston rentra alors dans la salle commune où il trouva Owen qui l'attendait. Il fallait l'éloigner de là, il lui ordonna de seller les chevaux. Le jardinier avait pendant ce temps pressé les postillons et l'on n'avait fait que dételer et rateler. La voiture était donc prête à partir et n'attendait plus que les voyageuses qui, après un court et frugal repas, car on était en un jour d'abstinence, traversèrent de nouveau la salle. À la porte, les deux dames trouvèrent Gaston, la tête découverte, se tenant prêt à leur offrir la main pour monter en voiture. Ces politesses de la part des jeunes seigneurs étaient fort de mise à cette époque à l'égard des jeunes filles. D'ailleurs, même pour l'Augustine, Chanlet n'était pas tout à fait inconnu. Elle reçut donc ses soins sans trop faire la duègne et le remercia même avec un gracieux sourire. Il va sans dire qu'après avoir offert la main à sœur Thérèse, Gaston eut le droit de l'offrir à Hélène. C'était là, comme on comprend bien, où il avait voulu en arriver. « Monsieur, » dit Owen derrière le chevalier, « les chevaux sont prêts. »« C'est bien, » répondit Gaston, « je prends un verre de vin et je pars. » Gaston salua une dernière fois les deux dames, le coche partit, tandis que Gaston remontait dans sa chambre et, au grand étonnement de son laquais, se faisait apporter une troisième bouteille, car la seconde avait disparu comme la première. Et il est vrai que, du contenu des trois bouteilles, Gaston n'avait pas bu en tout un verre et demi de vin. Cette nouvelle station à sa table fit encore gagner à Gaston un quart d'heure. Après quoi, n'ayant plus aucun motif de demeurer à Oudon, et presque aussi pressé maintenant qu'Owen de se mettre en route, il remonta à cheval et partit. Il n'avait pas fait un quart de lieue qu'au détour du chemin, à 50 pas devant eux, ils virent la voiture verte et noire, qui, ayant rompu la glace qui la couvrait, était si profondément enfoncée dans une ornière que, malgré les efforts du jardinier qui soulevait la roue et les exhortations accompagnées de coups de fouet que le postillon adressait aux chevaux, la voiture restait stationnaire. C'était un véritable coup du ciel que cet accident. Gaston ne pouvait laisser deux femmes dans un pareil embarras, surtout lorsque le jardinier, reconnaissant son pays, Owen, qui ne l'avait pas reconnu sous son capuchon, fit un appel à son obligeance. Les deux cavaliers mirent donc pied à terre, et comme la bonne sœur Augustine avait grand peur, on ouvrit la portière. Les deux femmes descendirent sur la route, et alors, avec le secours puissant de Gaston et d'Owen, la voiture sortit du mauvais pas où elle s'était mise. Les deux dames reprirent leur route et l'on continua le chemin. Seulement, la connaissance était faite, et elle commençait par un service rendu, ce qui mettait le chevalier en excellente position. La nuit s'avançait, et sœur Thérèse s'était timidement informée au chevalier s'il croyait la route sûre. La pauvre Augustine, qui n'était jamais sortie de son couvent, croyait les grandes routes infestées de voleurs. Gaston s'était bien gardé de la rassurer tout à fait. À cet endroit seulement, il lui avait dit que, comme il faisait la même route qu'elle, et comme elle devait même s'arrêter à Ancenis, lui et son domestique escorteraient la voiture d'ici là. Cette offre qu'elle avait regardée comme on ne peut plus galante et qu'elle avait acceptée sans hésitation aucune avait tout à fait rassuré la bonne sœur Thérèse. Pendant toute cette petite comédie, Hélène avait joué admirablement son rôle, ce qui prouve qu'une jeune fille, si simple et si naïve qu'elle soit, porte en elle-même son instinct de dissimulation qui n'attend que le moment favorable pour se développer. On avait aussitôt continué la route vers Ancenis. Or, comme la route était étroite, raboteuse et glissante, que de plus la nuit était promptement venue, Gaston avait continué son chemin en se tenant près de la portière, ce qui avait donné toute facilité à sœur Thérèse de lui adresser quelques questions. Elle avait alors appris que le jeune homme s'appelait le chevalier de Livry, était frère d'une des pensionnaires les plus chéries des Augustines, laquelle depuis 3 ans avait épousé Montlouis, et, forte de cette connaissance, sœur Thérèse ne voyait plus aucun inconvénient à accepter l'escorte du chevalier, opinion sur laquelle Hélène se garda bien de la faire revenir. On s'arrêta à Ancenis comme la chose avait été convenue d'avance. Gaston, toujours avec la même politesse et aussi la même retenue, offrit la main aux deux femmes pour les aider à descendre de voiture. Le jardinier avait confirmé tout ce que Gaston avait dit de sa parenté avec mademoiselle de Livry, de sorte que la sœur Thérèse n'avait aucun soupçon. Elle trouvait même ce gentilhomme fort convenable et fort poli, parce qu'il ne s'approchait et ne s'éloignait d'elle qu'avec de profondes révérences. Aussi, le lendemain fut-elle fort joyeuse lorsque, au moment de monter en voiture, elle le trouva déjà en selle avec son laquais dans la cour de l'auberge. Il va sans dire que le chevalier mit aussitôt pied à terre et, avec les révérences accoutumées, offrit la main aux deux dames pour monter en voiture. En accomplissant cet acte, Hélène sentit que son amant lui glissait dans la main un petit billet. Un coup d'œil de la jeune fille annonça qu'il aurait le soir même la réponse. La route était encore plus mauvaise que la veille. Aussi, comme par cette circonstance le besoin d'aide était devenu encore plus grand, Gaston ne quittait pas d'un seul instant la voiture. À chaque instant, la roue s'enfonçait dans une ornière. Tantôt il fallait prêter main forte au postillon et au jardinier, tantôt c'était une montée qui était trop rude et il fallait que les dames descendissent. Aussi, la pauvre Augustine ne savait comment remercier Gaston. « Ah, mon Dieu !» disait-elle à chaque instant à Hélène. « Que serions-nous devenus si Dieu n'avait envoyé à notre secours ce bon et excellent gentilhomme ?» Le soir, un peu avant d'arriver à Angers, Gaston demanda à ces dames quelle était l'auberge à laquelle elle comptait descendre. L'Augustine consulta un petit carnet sur lequel étaient écrites d'avance les différentes étapes qu'elle devait faire et répondit qu'elle s'arrêterait à la Herse d'Or. C'était par hasard aussi dans cet hôtel que logeait le chevalier. Aussi envoya-t-il d'avance aux veines pour retenir les logements. En arrivant, Gaston eut son petit billet qu'Hélène avait écrit pendant le dîner et qu'elle lui remit en descendant de carrosse. Hélas, les pauvres enfants avaient déjà oublié tout ce qui avait été dit de part et d'autre pendant la nuit de l'entrevue à la fenêtre. Ils parlaient de leur amour comme s'ils n'avaient pas pour terme le terme même du voyage. Quant à Gaston, il lut ce billet avec une profonde tristesse. Lui ne se faisait pas d'illusions, lui voyait l'avenir comme il était réellement, c'est-à-dire désespéré. Lié comme il l'était par son serment à une conjuration, envoyé à Paris pour accomplir une mission terrible, il ne prenait la joie qui lui arrivait que comme un sursis au malheur. Mais le malheur était toujours là au bout de cette joie menaçant et terrible. Aussi, dans ces derniers instants qui lui étaient donnés, rien n'échappait au pauvre chevalier, ni un serrement de main, ni un mot des lèvres, ni un soupir du cœur, ni le contact des pieds sous la table de l'auberge, ni le frôlement de la robe de laine qui effleurait son visage lorsqu'Hélène montait en voiture, ni la douce pression de son corps lorsqu'elle en descendait. Dans tout ceci, comme on le pense bien, Owen était oublié, et les soupçons qui étaient venus à l'esprit de Gaston, dans une mauvaise disposition d'humeur, s'étaient envolés comme ces sombres oiseaux de la nuit qui disparaissent quand vient le soleil. Gaston n'avait donc pas vu que, Doudon au Mans, Owen avait causé encore avec deux autres cavaliers, pareils à celui qu'il avait vu partir le premier soir et qui, comme celui-ci, reprenaient tous la route de Paris. Mais Owen, qui n'était pas amoureux, ne perdait rien, lui, de ce qui se passait entre Gaston et Hélène. Cependant, à mesure qu'ils avançaient, Gaston devenait plus sombre, car ce n'était plus par jour qu'il comptait, mais par heure. Déjà, depuis une semaine, on était en chemin, et si lentement qu'on eût marché, il fallait toujours finir par arriver. Aussi, lorsqu'en arrivant à Chartres, l'aubergiste, interrogé par sœur Thérèse, répondit de sa bonne grosse voix indifférente « Oh, demain, en vous pressant un peu, vous pourrez atteindre Rambouillet. » Il sembla à Gaston que c'était comme s'il eût dit « Demain, vous serez séparés pour toujours. » Hélène vit l'impression profonde que ces quelques mots firent sur Gaston. Il devint si pâle qu'elle fit un pas vers lui en demandant s'il se trouvait indisposé. Mais Gaston la rassura avec un sourire et tout fut dit. Cependant, Hélène avait ses doutes au fond du cœur. Hélas, la pauvre enfant aimait comme aiment les femmes quand elles aiment, c'est-à-dire avec la force, ou plutôt avec la faiblesse de tout sacrifier à leur amour. Elle ne comprenait pas comment le chevalier, qui était un homme, ne trouvait pas quelque moyen de combattre cette injuste volonté du destin qui les séparait. Hélène ne comprenait pas cette soumission passive au décret de la Providence, et elle s'avouait à elle-même qu'elle l'eût voulu faire quelque chose au chevalier pour lutter contre eux, mais Hélène était injuste envers Gaston. Les mêmes idées à lui aussi lui passaient par la tête, et il faut l'avouer, le tourmentait cruellement. Il devinait, au regard de la jeune fille, qu'il n'avait qu'un mot à dire pour qu'elle le suivît au bout du monde. Il avait de l'or plein sa valise. Un soir, au lieu de se coucher, Hélène pouvait descendre. Tous deux, alors, n'avaient qu'à monter dans une vraie chaise traînée par de vrais chevaux de poste et marcher comme on a marché de tout temps en payant bien. En deux jours, ils étaient au-delà de la frontière, hors de toute poursuite, libres et heureux, non pas pour une heure, pour un mois, pour un an, mais pour toujours. Oui, mais il y avait un mot qui s'opposait à tout cela, un simple assemblage de lettres représentant un sens aux yeux de certains hommes, n'ayant aucune valeur auprès de certains autres. Ce mot était le mot « honneur ». Gaston avait engagé sa parole vis-à-vis de quatre hommes d'honneur comme lui. Ces hommes s'appelaient de Pontcallec, de Montlouis, de Couédic et Talouette. Il était déshonoré s'il ne la tenait pas. Aussi, le chevalier était-il bien décidé à subir son malheur dans toute son étendue, mais à tenir sa parole. Il est vrai qu'à chaque fois qu'il remportait cette victoire sur lui-même, une douleur poignante lui déchirait le cœur. C'était pendant un de ces combats qu'Hélène avait jeté sur lui un regard, et c'est au moment où il venait de remporter une de ses victoires qu'il pâlit si fort qu'elle crut qu'il allait mourir. Aussi s'attendait-elle bien positivement à ce que le soir Gaston agirait, ou du moins parlerait, car cette soirée était la dernière. Mais, à son grand étonnement, Gaston ne parla ni n'agit. Aussi Hélène se coucha-t-elle le cœur serré, les larmes aux yeux, convaincue qu'elle n'était point aimée comme elle l'aimait. Elle se trompait fort, car cette nuit-là, Gaston ne se coucha pas du tout, et le jour le retrouva plus pâle et plus désespéré que jamais. De Chartres, où la nuit, comme nous l'avons dit, s'était passée lugubre et pleine de larmes pour les deux amants, on partit le matin pour Rambouillet, route de Gaston, destination d'Hélène. À Chartres, Owen avait encore causé avec un de ses cavaliers vêtus de gris qui semblaient des sentinelles posées sur la route, et plus joyeux que jamais de se trouver si proche de Paris qu'il désirait en voir, il hâtait la marche du cortège. On déjeuna dans un village, le déjeuner fut silencieux. L'Augustine songeait que le soir, elle reprendrait la route de son cher couvent. Hélène songeait que Gaston se décida-t-il maintenant, il était trop tard pour agir. Gaston songeait que le soir même, il allait abandonner la douce compagnie de cette femme aimée pour la terrible société d'hommes mystérieux et inconnus auxquels une œuvre fatale devait le lier à jamais. Vers 3 heures de l'après-midi, on arriva à une montée si rapide qu'il fallut mettre pied à terre. Gaston offrit son bras à Hélène, l'Augustine prit celle du jardinier et l'on gravit la pente. Les deux amants, marchant donc côte à côte, leur cœur débordé. Hélène, silencieuse, sentait les larmes couler le long de ses joues. Gaston sentait sa poitrine chargée d'un poids énorme, car lui ne pleurait pas, non que l'envie lui en manquât, mais parce que, sous prétexte qu'il était un homme, il n'osait pleurer. Ils arrivèrent au haut de la montée, les premiers et bien avant la vieille Augustine. Et là, tout à coup, devant eux, à l'horizon, ils virent se dresser un clocher, et autour de ce clocher, bon nombre de maisons qui se groupaient, comme font des brebis, autour de leur berger. C'était Rambouillet. Personne ne le leur dit, et cependant, en même temps et du même coup, tous deux le devinèrent. Gaston, quoique le plus oppressé, rompit le premier le silence. « Là-bas, dit-il, en étendant la main vers ce clocher et ces maisons, là-bas, nos destinées vont se séparer, peut-être pour jamais. Ah, je vous en conjure, Hélène, conservez ma mémoire, et quelque événement qui arrive, ne la maudissez jamais. » « Vous ne parlez jamais que de choses désespérées, mon ami, dit Hélène. J'ai besoin de courage, et au lieu de m'en donner, vous me brisez le cœur. N'avez-vous donc rien à me dire, mon Dieu, qui me fasse un peu de joie? Le présent est terrible, je le sais bien, mais l'avenir est donc aussi terrible que le présent ?»« Je vous comprends, Hélène, répondit Gaston en secouant la tête. Vous me demandez une promesse, rien qu'une promesse, n'est-ce pas ? Eh bien, voyez, si je suis malheureux, je ne puis promettre. Vous me demandez d'espérer, je désespère. Si j'avais seulement, je ne dirais pas 20 ans, 10 ans, mais 1 année à moi, je vous l'offrirais, Hélène, et me regarderais comme un homme heureux. Mais il n'en est pas ainsi. Du moment où je vous quitte, vous me perdez et je vous perds. À partir de demain matin, je ne m'appartiens plus. Malheureuse, s'écria Hélène, en prenant les mots à la lettre, m'auriez-vous trompé en me disant que vous m'aimiez? Seriez-vous fiancée à une autre femme? Pauvre ami, dit Gaston, sur ce point au moins je puis vous rassurer, je n'ai pas d'autre amour que vous, je n'ai pas d'autre fiancée que vous. Eh bien, mais alors nous pouvons donc être encore heureux, Gaston, si j'obtenais de ma nouvelle famille qu'elle vous regardât comme mon mari. Hélène, ne voyez-vous pas que chacune de vos paroles me brise le cœur? Mais au moins, dites-moi quelque chose. Hélène, il est des devoirs auxquels on ne peut se soustraire, des liens que l'on ne peut rompre. Je n'en connais pas, s'écria la jeune fille. On me promet une famille, de la richesse, un nom. Eh bien, dites un mot, Gaston, dites-le, et je vous préfère à tout. Mais pourquoi donc, vous, de votre côté, n'en feriez-vous pas autant? Gaston baissa la tête et ne répondit point. En ce moment, l'Augustine les rejoignit. La nuit commençait à tomber, aussi ne vit-elle pas le visage bouleversé des deux jeunes gens. Les femmes remontèrent en voiture, le jardinier se hissa sur son siège, et Gaston et Owen se remirent en selle. Et puis on continua la route vers Rambouillet. À 1 lieue de la ville, l'Augustine appela elle-même Gaston, lequel se rapprocha davantage de la portière. C'était pour lui faire observer que peut-être on viendrait au-devant d'Hélène et que des visages étrangers, surtout des visages d'hommes, seraient déplacés dans cette entrevue. Gaston avait aussi songé à cette circonstance, mais il n'avait pas eu le courage d'en parler. Il s'approcha donc encore d'un pas. Hélène attendait et espérait. Qu'attendait-elle et qu'espérait-elle? Elle l'ignorait elle-même. Que la douleur porterait Gaston à quelque extrémité, mais Gaston se contenta de s'incliner profondément, remercia les dames d'avoir permis qu'il leur fît compagnie et fit mine de s'éloigner. Hélène n'était pas une femme ordinaire. Elle vit à l'air de Gaston qu'il partait la mort dans le cœur. « Est-ce un adieu ou est-ce un au revoir ? » dit-elle hardiment. Le jeune homme se rapprocha tout palpitant. « Au revoir, dit-il, si vous me faites cet honneur. » Et il s'éloigna au grand trot. Gaston s'était éloigné sans dire un seul mot sur l'adresse où l'on se reverrait, ni sur les moyens de se revoir, mais Hélène pensa bien que c'était l'affaire d'un homme de s'occuper de tout cela. Elle le suivit seulement des yeux jusqu'à ce qu'il eût disparu dans la nuit. Un quart d'heure après, elle entra à Rambouillet. Alors l'Augustine tira un papier de sa large poche et lut, à la lueur du falot placé près de la portière, l'adresse suivante, « Madame Desroches, hôtel du Tigre Royal ». L'Augustine transmit aussitôt les renseignements au postillon et, 10 minutes après, la voiture s'arrêtait à l'adresse désignée. Aussitôt, une femme qui attendait dans une chambre à l'hôtel, qui s'ouvrait sous la grande porte, sortit avec précipitation, s'avança vers la voiture et, avec une révérence respectueuse, aida les dames à sortir de leurs chaises. Elle les guida ensuite, pendant quelques pas, dans une allée sombre, précédée d'un valet qui portait 2 lanternes peintes. Une porte s'ouvrit sur un vestibule de belle apparence. Madame Desroches s'effaça, fit monter devant elle Hélène et sœur Thérèse, et les deux voyageuses, au bout de 5 minutes, se trouvèrent assises sur un sofa moelleux en face d'un feu clair et pétillant. La chambre dans laquelle on se trouvait était belle, grande et meublée avec recherche. Dans ce salon, il y avait 4 portes. La première était celle par laquelle on était entré, la seconde conduisait à la salle à manger, qui se trouvait toute éclairée, toute chauffée et toute servie, la troisième donnait dans une chambre à coucher, fort décemment garnie, la quatrième était fermée et ne s'ouvrit point. Hélène admirait, sans s'étonner, toutes les magnificences, comme aussi le silence des valets, leur air calme et respectueux, si différent des joyeuses faces des hôteliers empressés qu'on avait vus sur la route. Quant à l'Augustine, elle marmottait son bénédicité en convoitant le souper fumant sur la table, se félicitant tout bas que l'on ne fût pas dans un jour maigre. Au bout d'un instant, Madame Desroches, qui avait accompagné les 2 voyageuses dans le salon et qui ensuite les avait laissées seules, rentra une seconde fois et, s'approchant de l'Augustine, lui remit une lettre que celle-ci ouvrit avec le plus grand empressement. La lettre contenait l'avis suivant. « La sœur Thérèse pourra passer la nuit à Rambouillet ou repartir ce soir même à son gré. Elle recevra 200 louis, gratification offerte par Hélène à son cher couvent, et abandonnera sa pensionnaire aux soins de Madame Desroches, honorée de la confiance des parents d'Hélène. » Au bas de cette lettre et en place de signature était un chiffre que la sœur rapprocha d'un cachet imprimé sur une lettre qu'elle apportait de Clisson. Lorsque l'identité fut constatée, « Allons, dit-elle, cher enfant, nous allons nous quitter après le souper. »« Comment déjà ? » s'écria Hélène, qui se rattachait par sœur Thérèse seulement à sa vie passée. « Oui, mon enfant, on m'offre bien, il est vrai, de coucher ici, mais j'aime mieux, je vous le dis, repartir ce soir même, car j'ai grande hâte de rejoindre notre bonne maison de Bretagne, où j'ai toutes mes habitudes et où rien ne manquera à ma joie. Sinon, que vous n'y serez plus, ma chère enfant. » Hélène jeta en pleurant ses bras au cou de la bonne sœur. Elle se rappelait sa jeunesse passée si doucement au milieu de ses compagnes toutes dévouées à elle, soit que le respect leur eût été recommandé par la supérieure, soit qu'elle-même eût su se faire chérir. Par un de ces miracles de la pensée que la science n'expliquera jamais, les vieilles charmilles, le beau lac, les cloches augustines lui revinrent à la mémoire, et toute cette existence qu'elle regardait déjà comme un rêve perdu repassa, joyeuse et vivante, devant ses yeux fermés. La bonne sœur Thérèse, de son côté, pleurait à chaudes larmes, et cet événement inattendu lui avait si bien coupé l'appétit qu'elle se relevait déjà pour partir sans avoir mangé. Lorsque Madame Desroches rappela aux 2 femmes que le souper était servi et fit observer à sœur Thérèse que si elle voyageait comme c'était son intention toute la nuit, elle ne trouverait aucune auberge ouverte et par conséquent rien à manger jusqu'au lendemain matin. Elle l'invitait donc à prendre quelque chose ou tout au moins à faire ses provisions. Sœur Thérèse, convaincue par ce raisonnement plein de logique, se décida enfin à se mettre à table et pria tant Hélène de lui tenir compagnie que celle-ci s'assit devant elle, mais sans qu'elle pût se décider à rien prendre. Quant à la religieuse, elle mangea à la hâte quelques fruits et but un demi-verre de vin d'Espagne, puis elle se leva et embrassa encore une fois Hélène, qui voulait l'accompagner au moins jusqu'à sa voiture, mais à laquelle Madame Desroches fit observer que l'auberge du Tigre Royal étant pleine d'étrangers, il serait inconvenant qu'elle quittât sa chambre et s'exposât à être vue. Hélène alors demanda à revoir le jardinier qui leur avait servi d'escorte. Le pauvre homme avait sollicité la faveur de dire adieu à la pensionnaire, mais il va sans dire qu'on s'était peu préoccupé de ses sentimentales réclamations. Cependant, à peine Madame Desroches entendit-elle Hélène exprimer un désir en harmonie avec le sien, qu'elle le fit monter à son tour et qu'il lui fut permis de voir encore une fois celle dont il croyait bien se séparer pour toujours. Dans les moments suprêmes, et Hélène était arrivée à un de ces moments, tous les objets ou toutes les personnes que l'on quitte grandissent et se rattachent au cœur. Aussi cette vieille religieuse et ce pauvre jardinier étaient-ils devenus des amis pour elle. Elle eut donc toute la peine du monde à les quitter, les rappelant au moment où ils allaient sortir, recommandant à une de ses amies et à l'autre ses fleurs, puis au milieu de tout cela lui jetant quelques regards de remerciement qui avaient rapport à la clé de la grille. Puis, comme Madame Desroches vit qu'Hélène cherchait, mais inutilement dans sa poche, car le peu d'argent qu'elle avait était enfermé au fond de sa malle, « Mademoiselle, lui demanda-t-elle, aurait-elle besoin de quelque chose ?»« Oui, dit Hélène, j'aurais voulu laisser un souvenir à ce brave homme. » Alors Madame Desroches remit 25 louis à Hélène, qui, sans les compter, les glissa dans la main du jardinier, dont, à cette marque de générosité inattendue, les cris et les larmes redoublèrent. Enfin, il fallut se quitter. La porte se referma sur eux. Alors Madame Desroches s'approcha et fit observer à la jeune fille qu'elle s'était bien assise à table, mais qu'elle n'avait rien pris. Hélène consentit à souper, non pas qu'elle eût faim, mais espérant avoir le soir même des nouvelles de Gaston. Elle chercha à gagner du temps. Elle se mit donc à table, invitant Madame Desroches à en faire autant, mais ce ne fut que sur les prières réitérées d'Hélène que sa nouvelle dame de compagnie y consentit. Cependant, quelles que fussent les instances de la jeune fille, elle ne voulut point manger et se contenta de la servir. Le souper terminé, Madame Desroches marcha devant Hélène et, lui montrant sa chambre à coucher, lui dit « Maintenant, mademoiselle, vous sonnerez quand il vous plaira pour appeler une femme de chambre qui se tient à vos ordres, car vous saurez que ce soir même vous recevrez probablement une visite. » « Une visite ?» s'écria Hélène en interrompant Madame Desroches. « Oui, mademoiselle, reprit celle-ci, une visite de l'un de vos parents. » Et le parent est-il celui qui veille sur moi ? Depuis votre naissance, mademoiselle. Oh mon Dieu ! S'écria Hélène en mettant la main sur son cœur. Et vous dites qu'il va venir ? Je le crois, car il a bien grande hâte de vous connaître. Oh ! Murmura Hélène, oh, il me semble que je vais me trouver mal. Mais ce n'est pas le tout, continua Madame Desroches. Cette personne est forcée de s'entourer du plus grand mystère. Et pourquoi cela ? « Il m'est défendu de répondre à cette question, mademoiselle. »« Mon Dieu, mais que signifie donc de pareilles précautions vis-à-vis d'une pauvre orpheline comme moi ? Elles sont nécessaires, croyez-le bien. Mais enfin, en quoi consiste-t-elle ? D'abord, vous ne pouvez voir le visage de cette personne, car si, par hasard, vous la rencontriez plus tard, elle ne doit pas être reconnue de vous. »« Alors, cette personne viendra donc masquée ? » Non, mademoiselle, mais on éteindra toutes les lumières. Mais cette personne, vous lui devez donc l'obéissance la plus absolue. Je lui dois plus que cela, mademoiselle, je lui dois le plus profond respect. Et la personne qui viendra est donc de qualité. C'est un des plus grands seigneurs de France. Et ce grand seigneur est mon parent, le plus proche. Et Madame Desroches fit un pas pour se retirer. « Vous me quittez ? » s'écria Hélène. « Je vous laisse à votre toilette. Mais, madame... » Madame Desroches fit alors une profonde révérence, pleine de cérémonie et de respect, et sortit à reculons, en fermant la porte de la chambre après elle.